Les cours du Collège de France, Louis Fensterbank, chaire Activation en chimie moléculaire.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là aujourd'hui. Donc, c'est le début de ce troisième cycle de cours de cette année, consacré aux espèces réactives et intermédiaires. Donc c'est un thème très large et c'est probablement un thème d'ailleurs que je vais reconduire l'année prochaine parce qu'en fait il y a beaucoup de choses. Ça appelle aussi à beaucoup de séminaires et notamment de conférenciers au niveau national qui peuvent intervenir là-dessus. On a déjà parlé d'un certain nombre d'intermédiaires dans les cours précédents, mais là juste on va focaliser sur certaines espèces qu'on a un petit peu moins vues. Et donc ce premier cours aujourd'hui va introduire quelques concepts. Alors c'est une sélection qui est probablement discutable, mais que je trouvais assez intéressante. Vous allez voir, comment voir la réaction organique sous différents angles. Et puis l'introduction aux carbocations. Alors pourquoi les carbocations ? Parce que tout d'abord, c'est souvent le premier intermédiaire auquel on est confronté quand on apprend la chimie organique. Souvent, c'est la substitution nucléophile d'ordre 1 qui vient assez rapidement. Et puis il se trouve que notre conférencier d'aujourd'hui est un spécialiste de ces espèces-là, donc ça marche très bien, et donc c'était la date sur laquelle on a convenu. Et donc Jérôme Lacour de l'Université de Genève va nous parler, lui, de tout ce qu'il fait dans la synthèse et l'exploitation des carbocations et leurs propriétés magnifiques. Voilà, donc voici une photo, non pas des Alpes suisses, mais en fait des Dolomites. Illustrant un chemin réactionnel et dans ce creux quelques sièges, quelques intermédiaires qu'on va voir au cours de lors de ce cours. Alors pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, comprendre une réaction souvent amène à comprendre quelles sont les espèces réactives en jeu et quels en sont les intermédiaires. Une fois qu'on a cette connaissance, bah, évidemment, on a une idée du mécanisme. Et donc, on peut l'optimiser, la réaction, mais on peut aussi en l'exemplifier, la diversifier, aller sur d'autres chemins réactionnels. Et donc, c'est un savoir qui est important, voire essentiel, et surtout qui doit être couplé avec d'autres choses qui sont évidemment, on le voit de plus en plus, des études mécanistiques à base de physico-chimie, mais aussi des calculs, par exemple DFT. Et donc, on a maintenant une idée assez de plus en plus avancée sur un certain nombre de réactivités. Ce qui est assez intéressant aussi, et ça je vais le redire plusieurs fois, c'est qu'on a une revisite de vieilles réactions, mais qui permettent finalement de confirmer quelques premières intuitions. Alors, la bibliographie, elle est assez vaste, mais il y a des livres qui sont peut-être plus faciles d'abord que d'autres. Et alors, il y en a un, celui-là, les Reactive Intermediate Oxford Science Publication, donc c'est ce qu'on appelait les Oxford Primer, là, c'est des petits volumes très simples qui sont très, très valables pour présenter plein de réactions chimiques, organiques, mais notamment les Reactive Intermediates, donc très faciles à lire. Si vous voulez, à contrario, celui-ci, plus gros volume, mais alors d'une richesse absolue, est très intéressant sur la chimie physique organique, qui est vraiment très intéressant. Et puis, finalement, ces livres des années 90 que je pense Jérôme a dû, on a tous transpiré dessus, mais ils sont quand même d'une grande richesse, les Carré-Sundberg, dont il existe d'ailleurs une traduction en français, sont très bien. Si vous voulez aller assez loin dans la photochimie, mais d'une façon générale dans la chimie physique organique, le livre de Thoureau, là, dont j'ai déjà parlé d'ailleurs l'année dernière, est particulièrement costaud, mais montre qu'il y a quand même beaucoup de choses derrière la réactivité chimique. Et puis deux livres ici vraiment propres sur les intermédiaires, ce Moss et Platz et ce Singh, qui sont eux aussi vraiment intéressants. Alors je devrais ajouter le bouquin de Pierre Vogel, on en parlait tout à l'heure, je n'ai pas mis dans la liste, mais qui lui-même contient plein de données, notamment des constantes cinétiques, des constantes thermo, et qui est aussi riche. Dans le cas des carbocations, cette revue relativement récente finalement redresse bien le paysage de la chimie des carbocations, son évolution, sa genèse, son application dans le monde industriel et ainsi de suite. Alors, je reviens sur des choses que j'avais présentées il y a quelques années, mais c'est vrai que 1828, voleur, première synthèse d'une molécule organique, synthèse emblématique par excellence, puisqu'on prend des réactifs inorganiques, absolument pas du tout nécessairement la bibliothèque, dans les cabinets des organiciens. Et puis on chauffe, et puis on obtient l'urée, une molécule très organique du vivant. Et donc cette expérience a été extrêmement intéressante, puisque Wöhler, qui était donc l'ancien élève de Berzelius, dit « Ah, j'ai pu faire l'urée sans avoir besoin d'un rein ou somme toute d'un animal, qu'il soit homme ou chien. » Donc première molécule du vivant, faite avec des réactifs chimiques, et qui donc n'est pas issue d'un organisme biologique. Et donc ça mettait fin à un certain nombre de concepts, dont la force vitale, qui était que toute molécule organique était nécessairement issue d'un organisme vivant. Cette synthèse, c'est difficile à dire si l'impact a été grand ou pas, parce qu'il n'y a pas d'indicateur du nombre de citations, ce genre de choses à l'époque. Mais globalement, elle n'a pas forcément toujours eu l'écho qu'on pense. Il y en a un qui en parle de façon très intéressante, c'est Jean-Jacques, qui était ici, chercheur ici au Collège de France, qui a vraiment fait un très beau manuscrit là-dessus. Et puis Kurt Van Trupp aussi, très récemment, si vous êtes intéressé par l'histoire de la chimie organique, une petite revue dans leur jog qui se lit vraiment très bien et qui est très intéressant. Et ce qui est important, finalement, celle qui a le plus, on va dire, enfoncé le clou, c'est cette synthèse de l'acide acétique par Kolb, qui est par ailleurs un nom assez connu dans la synthèse organique, puis je vais revenir dessus. Et donc, une synthèse multi-étape pour faire une molécule somme toute simple, issue du vivant. Mais vous voyez, on parle de carbone, soufre élémentaire, du CS2, a priori on forme un carbène qu'on couple, et puis ensuite hydratation avec un certain rangement photochimique, réduction au potassium-mercure, donc des étapes assez lentes. Évidemment, personne ne va utiliser ça pour faire l'acide acétique, en tout cas certainement pas l'industrie. Mais magnifique synthèse, puisque c'est le premier exemple où on crée une liaison carbone-carbone. Donc cette synthèse, elle, était particulièrement importante. Et alors ce qui est marrant, c'est que Kolbe, il est plus connu pour, en fait, cette rupture, en fait, de la liaison carbone-carbone ici, par électrolyse des acides carboxyliques. L'électrolyse de Kolbe, vous tapez, c'est une réaction qui est très connue, qui est encore utilisée, et qui montre bien, d'ailleurs, que l'électrolyse, la synthèse par électrolyse, par électrochimique, date quand même des années 1850, et ainsi de suite. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses qui sont clairement d'un certain âge, mais bon, qui continuent à évoluer. Donc, de là, comment ne pas parler ensuite de la star locale, du pionnier français lui-même du domaine. C'est évidemment Berthelot, puisque Berthelot, lui, a tout de suite vu une opportunité que les autres n'avaient peut-être pas complètement vue, c'est qu'on pouvait utiliser la synthèse pour créer un monde nouveau moléculaire. Donc il a écrit ce livre dans les années 1870, « Chimie organique fondée sur la synthèse », 2 tomes qu'on peut télécharger, ce qui est relativement rare, je vais vous en parler après. Donc il avait sa chaire au Collège de France. Berthelot, c'est quelqu'un qui était très occupé, il faisait plein de choses, il a été ministre des Affaires étrangères, il s'est occupé scientifiquement, il a touché à énormément de choses différentes. Mais une de ses premières synthèses, donc il a fait de l'éthanol à partir d'une réaction finalement relativement simple, hydratation de l'éthanol. Donc là, c'est une molécule naturelle. Mais là où il a commencé vraiment à aller très loin, c'est par exemple faire l'éthylène, où on prend du carbone, dihydrogène, on fait un arc électrique et on obtient cette molécule d'acétylène. Et puis probablement une de ses réactions les très très citées encore de nos jours, vous la verrez dans beaucoup d'introductions d'articles, c'est cette cyclotrimérisation de l'acétylène pour donner du benzène, des conditions vraiment, on peut le dire, drastiques, mais une très belle réaction parce que donc, là on arrive à une molécule totalement non naturelle et puis qui a la source d'une chimie très riche, toute celle des aromatiques. Donc Berthelot l'exprime de façon relativement claire. La chimie crée son objet, cette faculté créatrice, semblable à celle de l'art lui-même, la distingue essentiellement des sciences naturelles et historiques. Donc clairement, montre que le chimiste organicien est quelqu'un qui peut contribuer à fasciner un nouveau monde. Et quand on voit l'impact de la chimie organique sur la société aujourd'hui et ce qu'elle a pu apporter au cours du siècle dernier, voire même celui d'avant, on comprend assez bien ce que ça veut dire. Voici par exemple, bon, alors j'ai juste la liste des réactions du 19e siècle. On n'est pas au 20e siècle, on est au 19e siècle. Et si vous regardez un certain nombre de réactions, vous allez voir que on les connaît encore. Hein, la réaction de Strecker pour faire des acides aminés, bon, elle est très très, très utilisée. Bon, la réaction d'aldol, évidemment. La synthèse d'indole par Bayer, ben, en fait, reste quand même quelque chose de particulièrement robuste. L'oxydation de Bayer-Willinger, la Friedel-Crafts, hein, 1877, donc c'est quand même vénérable. Hoffmann, Loefer-Freytag, qui fait encore le titre d'un certain nombre d'articles dans Science ou Nature, mais qui, vous voyez, est donc là impliqué d'une chimie radicalaire. Et puis bon, voilà, on peut continuer. Beckmann Rangement, il est à l'origine du nylon. Rangement de Carstius, Gabriel, très utilisé finalement encore dans l'industrie, parce que c'est une façon très simple de faire des amines primaires. La fameuse électrolyse de Kolbe, dont je vous ai parlé, à ne pas confondre avec la réaction de Schmidt-Kolbe, qui elle, a permis de carboxyler un phénoxy et de faire l'acide salicylique, autrement dit l'aspirine. Donc, les règles de Markovnikov, et puis ainsi de suite. Et puis surtout, ce qui est très important, c'est que la chimie a tout de suite été couplée à l'industrie. C'est-à-dire qu'en fait, des gens ont vu cette opportunité extraordinaire, j'ai envie de dire, de vraiment lancer des produits nouveaux avec des nouvelles propriétés. Et donc, c'est le groupement BASF a été créé à cette époque-là, Bayer, Solvay, Dupont de Nemours, les frères Poulenc en France. Donc, quand on voit l'industrie, l'industrie chimique, on voit un petit peu en France. Si vous voulez voir des grands complexes industriels chimiques, le mieux, c'est de traverser le Rhin. Vous allez à Mannheim, Ludwigshafen, vous verrez le complexe de BASF. C'est monstrueux, c'est 10 km sur 1 km et vous verrez exactement ce que c'est. Vous prenez le train entre Cologne et Düsseldorf, vous voyez le complexe de Bayer, Leverkusen. Et là aussi, vous comprenez, bon, vous avez même une équipe de foot, hein, Bayer-Leverkusen. Donc vous comprenez ce que c'est que le poids de l'industrie chimique et aussi, d'ailleurs, son poids énergétique hein, qu'il ne faut jamais... qu'il faut prendre en compte dans le cas de l'Allemagne. C'est vraiment un consommateur d'énergie assez important. Même si là aussi, les choses évoluent dans un sens de réduction des coûts. Alors, on peut se poser la question aujourd'hui, finalement, on en est où au niveau synthèse ? Donc, c'est des constats, je suis sûr que vous en avez d'autres, ou pas forcément, qui pourraient être intéressants de discuter. Qu'on peut faire d'ailleurs après cette présentation. Globalement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a toujours des développements méthodologiques très importants. Hein. C'est quand même la catalyse homogène, par exemple, occupe un nombre de journaux importants, a fait sa place dans des journaux comme Nature, Science, et ainsi de suite. Vous regardez Chemical Engineering News, vous ouvrez le magazine semblable de la Royal Society of Chemistry, le Chemistry World, c'est pareil, sur les centaines de pages, il est rare qu'il n'y ait pas au moins deux ou trois articles consacrés à des développements méthodologiques en synthèse ou des revisites de molécules. Alors, pourquoi ? En utilisant des nouvelles techniques, alors photorédox, électrocatalyse, ball milling, comme vous le voyez, je mets new parce que c'est rarement new en fait, hein, c'est juste optimisation. On profite d'une amélioration des matériels. C'est notamment beaucoup le cas avec la photochimie. On est passé au LED bleu, parce que voilà, qui permet d'avoir des conditions plus douces. Mais bon, donc on bénéficie de l'optimisation des matériels. Il y a un point sur lequel on discutait un petit peu hier, justement avec Jérôme, c'est explorer l'espace chimique. Et c'est peut-être pas celui sur lequel les gens se penchent le plus, parce que c'est peut-être un peu risqué, mais il y a tellement de combinaisons d'atomes, de liaisons à faire. On n'a rien exploré pratiquement. J'ai pas sorti les chiffres, mais on pourrait explorer beaucoup plus cet espace chimique. Mais voilà, et c'est peut-être là aussi que, malgré tout, avoir une aide dirigée par l'intelligence artificielle, machine learning, peut aider. Mais d'une façon générale, une grande partie. Les acteurs sont quand même impliqués dans la revisite de processus. Généralement, on les rend plus verts. Alors là, quel degré de vertitude, si je dois dire, on en est, ça c'est toujours discutable. Il y a quand même des indicateurs. Et puis, quelque chose qui fait son chemin et qui va très très vite, c'est malgré tout la robotisation des labos. Et vous avez quand même des vidéos saisissantes, par exemple du labo d'Andrew Cooper à Liverpool, où on a vraiment le robot dans le labo, tout seul, qui va dans un cabinet chercher des réactifs, qui va ensuite sur une espèce de paillasse et puis qui fait les mélanges et ainsi de suite. Et tout ça complètement autonome. Et voilà, donc ça existe. Leroy Cronin à Glasgow est aussi extrêmement actif sur le domaine, il a même commercialisé un certain nombre de solutions, ou du moins on peut contacter cette société Computer si on veut par exemple automatiser quelque chose qui se fait de façon très routinière dans un labo. Pourquoi pas l'automatiser au lieu de sacrifier du temps humain et ainsi de suite, et peut-être aussi de minimiser des erreurs expérimentales. Donc globalement, voilà. La synthèse totale, là aussi, n'est pas épargnée. Quel est son intérêt? Où aller? Est-ce qu'on peut vraiment complètement optimiser les rétro-synthèses au point de complètement réimaginer des nouvelles synthèses beaucoup plus courtes, beaucoup plus efficaces? Donc là, c'est un article assez intéressant sur cet aspect des choses. Alors, globalement, ce qu'il nous faut pour faire de la synthèse organique, c'est quand même des produits de départ. Et donc on a besoin généralement de building blocks pour arriver aux molécules sûres, parce qu'on part de molécules déjà existantes, et les ressources principales de ça, ça reste quand même la pétrochimie, hein, parce qu'on voit toujours le pétrole comme une source d'énergie, mais c'est aussi une source de la chimie. Alors certes, dans la consommation globale du pétrole, c'est une toute petite part, hein, donc 10 à 15% du pétrole, mais elle est quand même essentielle. Elle est essentielle parce que pour l'instant, on ne sait pas faire autrement. Et puis surtout, le pétrole permet d'avoir accès à des molécules typiquement aromatiques qui seraient, pour l'instant, qu'on a quand même du mal à faire autrement. Et puis évidemment, il y a la biomasse. Alors là, la biomasse, lignocellulosique ou autre, qui est de plus en plus impliquée. Mais c'est souvent quand même des produits à forte... il y a beaucoup de liaisons carbone-oxygène. Donc, c'est difficile d'aller directement... sur les mêmes produits que ce qui est issu de la pétrochimie. Bon, après, on peut également inventer des nouveaux catalogues, mais voilà les deux sources principales. Et puis, évidemment, on peut penser à d'autres sources, valorisation du CO2 et ainsi de suite, qui peut redonner des nouveaux cycles. On a toujours cette vision pas forcément claire de qu'est-ce qui est abondant. Quand on veut faire des commandes de produits, quelle est l'abondance des building blocks? Donc c'est un des articles référence sur cette problématique, donc par Alain Varnec à Strasbourg. Et donc ce que vous voyez, c'est alors il y a les amines primaires, il y a un choix de d'amines primaires énorme, suivi des acides. Donc là c'est deux familles de composés. Vous avez énormément de composés possibles. Alors certains, ça veut dire quand même qu'il faut contacter la société qui fait ça, des sociétés à façon, mais bon, a priori, quelqu'un peut vous le fournir. Il y a deux types de... Vous voyez, il y a une ligne orange et une ligne bleue. Donc le RO2, c'est une espèce de catégorie premium du building block, avec un poids moléculaire inférieur à 200, des solubilités assez importantes et peu de edge hydrogen bonding, donc c'est une catégorie à part, et globalement c'est souvent celle qui est quand même malgré tout le plus utilisée. Et puis voilà, donc on descend après dans les autres familles. Donc par exemple, quand on utilise beaucoup de dérivés halogénés, par exemple, vous voyez, les dérivés halogénés, c'est pas ce qui vient en premier. C'est même finalement, c'est pas très loin des acides boroniques typiquement. Donc, les acides boroniques, il y en a beaucoup beaucoup. Donc c'est assez intéressant de voir ça. Les alcènes, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ne sont pas forcément si présents que ça comme produit de départ. Et voilà, donc c'est une analyse qui peut être utile, en tout cas qui est utile du point de vue industriel, parce que ça aussi indique le sous-jacent évidemment là-dessus, c'est aussi des coûts pour se fournir en produits chimiques. Alors, comment on fait la synthèse? Bon, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais globalement, on va arriver aussi à la notion d'un intermédiaire. C'est que, bon, généralement, on va globalement mélanger deux produits chimiques. sur lesquels l'idée c'est de créer une ou plusieurs liaisons chimiques, bon, généralement une, et principalement des liaisons carbone-carbone, puisque c'est un peu la formation, on va dire, suprême de la chimie. Mais comment faire réagir ces building blocks? Déjà, on va faire en sorte qu'il y ait des gradients de charge entre les deux, qui soient assez clairement définis. Et généralement, ça va nous amener à, par exemple, prendre des briques dont on vient de parler. L'un est riche en électrons, avec ce doublé, et l'autre relativement appauvri. Et donc, on va pouvoir réagir, par exemple, comme ça, même s'il y a d'autres possibilités de réagir. Ce qui est important, c'est qu'il faut que les deux, à un moment, se rencontrent, quel que soit le milieu réactionnel dans lequel on est. Et il va falloir aussi trouver les conditions réactionnelles pour que ça marche. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est l'intérêt de cette photo très, très simple, c'est que globalement la brique est là, celle-là est là. Globalement, on retrouve la majeure partie de la brique de gauche ici et la majeure partie de la gauche de droite ici, mais la liaison entre les deux, elle, est souvent une nouvelle fonction. On a créé une nouvelle fonction. Et donc, une fois que ces partenaires ont été identifiés, eh ben, en fait, on doit trouver les bonnes conditions de réaction qui favorisent la collision pour les faire réagir. Alors, s'il y a ce questionnement, comment faire en sorte que des réactions, on va dire, avancent plus ou moins vite? Celui qui a vraiment eu l'idée première de voir quels étaient les apports d'énergie extérieure et comment aider une réaction, c'est Arrhenius, prix Nobel de chimie en 1903, qui a observé de très simple, donc lui c'est sa réaction, on va dire, historique, c'est que quand il a fait l'hydrolyse du saccharose en glucose et fructose, il remarque qu'en chauffant, ça marche mieux. En fait, globalement, en chauffant simplement d'un seul degré, la vitesse de la réaction augmente de 10 à 15%. Première constatation relativement empirique, dont il va sortir une loi, elle-même très empirique, mais qui, vous allez voir, est quand même bien, bien robuste. Alors, généralement, d'ailleurs, souvent, on a cette règle qu'on entend souvent. Augmenter de 10 degrés votre milieu réactionnel et vous allez généralement doubler votre vitesse de réaction. Donc c'est vrai que on n'a pas toujours à l'esprit quand on dira ma réaction n'a pas marché, mais oui, mais finalement, est-ce que par simple chauffage, on a peut-être essayé, parce qu'il y a quand même parfois des choses qui peuvent se produire. Évidemment, ça peut être au détriment de la sélectivité, mais bon. Donc, il arrive à cette équation, K, la rate constante, A. Alors là, c'est un terme un petit peu fourre-tout, on va voir, mais c'est une mesure de la fréquence des collisions. Et puis, donc, un terme très important, donc exponentielle moins EA, RT. Bon, EA étant cette énergie d'activation qui, en fait, définit l'énergie à fournir pour convertir ces deux produits vers le produit C, énergie qui est souvent induite par chauffage parce que vous allez donc augmenter la cinétique l'énergie cinétique des molécules et donc favoriser les rencontres et les rencontres productives. Alors aujourd'hui, Arrhenius, bon, je pense que c'est difficile de faire la chimie sans croiser Arrhenius. Mais Arrhenius est devenu aussi populaire pour une autre raison, ou du moins a trouvé un autre écho. C'est que c'est en fait un des premiers à avoir modélisé l'effet du CO2 sur le climat, avec quand même quelques calculs. Et donc c'est quelqu'un qui avait vraiment une intuition remarquable. Alors il y avait quelques travaux précurseurs, mais vraiment il a... Les gens restent impressionnés par les articles qu'il a pu produire sur l'effet de serre, notamment par le CO2. Alors, l'autre vision beaucoup plus achevée, mais qui finalement, et heureusement c'est bien, converge avec celle d'Arrhenius, c'est la théorie de l'état de transition, ou Activated Complex Theory, donc par Ehring, Evans et Poliani, donc 1935, donc environ 30 ans plus tard, où eux ne sont pas partis de constats expérimentaux, mais réellement d'une analyse très théorique. Et donc, ce qu'ils ont montré, c'est que on pouvait postuler une espèce qui était un état de transition, un point de passage, et qu'on appelle le complexe activé, et cette espèce est en équilibre avec les réactifs, c'est-à-dire que dès qu'on revient, on revient au produit de départ, mais si on va un petit peu sur la droite, on va vers les produits d'arrivée, donc espèce qu'on ne peut absolument pas isoler, qui a en fait une existence très, très, très courte, bien sûr. Et globalement, là où le travail de Herring, Evans, Poliani va être très intéressant, c'est d'arriver à cette équation maintenant, où globalement, on retrouve quelque chose qui est très semblable à celle d'Arrhenius. Globalement, l'enthalpie libre de réaction correspond fortement à l'énergie d'activation d'Arrhenius. Et c'est surtout le terme A qui, ici, devient beaucoup plus clair. Un point aussi qui est très important, donc ce terme A correspond donc à ce produit K, KBT, avec donc la KB, la constante de Boltzmann, H, la constante de Planck, on divise par la constante de Planck, la température, et un facteur K ici qui lui aussi, alors je ne sais plus quel est le terme exact, mais bon, qui est généralement un petit peu négligé dans l'utilisation, mais bon, qui est là dans l'équation. Surtout, ce qui est important dans cette équation, c'est le delta S, facteur souvent qui peut complètement changer le cours d'une réaction, parce que quand on veut par exemple faire A plus B donne C, le poids de l'entropie peut devenir très conséquent à forte température, puisque quand vous faites A plus B donne C, votre delta devient positif, devient négative, excusez-moi, donc le moins T delta S devient positif, et donc c'est moins favorable pour la réaction. Donc, tu vas avoir en tête ce problème entropique, entropique. Et toujours réfléchir à ça quand vous faites une réaction au niveau entropique réellement, quel est le gain ou pas, et quand vous faites une réaction de cyclisation, entropiquement, ce n'est pas favorisé. Bon, voilà, donc c'est quand même quelque chose qui était particulièrement important dans ce traitement. Oui, alors là aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir que cette théorie des états de transition va être couplée assez forcément avec aussi la notion d'intermédiaire, parce que globalement, on va se rendre compte que certaines réactions, leur loi de cinétique, nécessitent de passer par justement un état intermédiaire et donc de bien faire la différence entre les deux. Donc globalement, on va passer par un état de transition, mais on peut arriver à une espèce ici qui elle-même va évoluer, souvent de façon plus facile, comme c'est le cas ici, donc avec une énergie d'activation éventuellement moindre. Et donc globalement, cet intermédiaire, bah, évidemment, ce n'est pas le produit de départ, ce n'est pas le produit d'arrivée, et c'est pas non plus l'état de transition, mais c'est des espèces que là, maintenant, on va un petit peu plus discuter aujourd'hui. Donc c'est une espèce qui peut en fait avoir une durée de vie très longue, qui dans certains cas d'ailleurs peut être isolée. Et c'est la meilleure preuve souvent d'un mécanisme, c'est que vous supposez tel intermédiaire, mais si vous l'isolez et vous le mettez dans les conditions de réaction et qu'il vous donne le produit que vous voulez, c'est donc que vous aviez a priori une bonne idée de ce qui se passait. Un état de transition, comme j'ai dit, va durer au contraire lui très peu, donc on dit la one bond vibration cycle, sont vraiment le temps d'une vibration, un full cycle de vibration, ce qui correspond à des temps de l'ordre de la femtoseconde. Tout ça c'est assez bien d'ailleurs, je devrais donc parler de ce site là, vous pouvez aller regarder dessus, c'est un glossaire de termes assez intéressant pour la chimie, réactivité, il y a plein d'autres choses. Notamment il y a des études, il y a la cinétique, la stéréochimie, tout ça c'est relativement bien défini, et donc ça vous donne tout de suite les bons termes aussi en anglais parfois, parce que bon, on peut être assez bateau. Alors il y a un postulat qui est particulièrement important et qu'on a déjà d'ailleurs utilisé dans le cours de chimie radicalaire, c'est le postulat de Hamon, littéralement, donc Jacques 1955, hein, vous voyez quand même les choses ont été assez lentes hein, dans la compréhension malgré tout de la réactivité chimique. Mais donc, ce que dit Hammond, c'est que si deux états, par exemple un état de transition et un intermédiaire instable, se suivent dans une réaction et ont globalement sont des états d'énergie relativement voisins, alors on peut passer de l'un à l'autre avec un minimum de réorganisation de la structure moléculaire. Bon. Sur cette base-là, c'est à la fois intuitif, parce qu'on comprend, s'ils ont le même état d'énergie, on peut comprendre qu'il n'y a pas beaucoup de différence au niveau de la structure moléculaire, mais ça reste un peu abstrait sur ce que ça veut dire. Là où ça prend son sens, c'est si on regarde deux types de réactions. L'une est ergonique, où globalement, on va vraiment avoir quelque chose où le produit de départ est relativement proche de l'état de transition. En fait, c'est ça l'idée. C'est que dans ce cas-là, l'état de transition est proche du produit de départ. Donc, on va avoir ce qu'on appelle un early transition state. Et donc, globalement, ça veut dire qu'au niveau de l'état de transition, on a très peu finalement bougé par rapport au produit de départ. Hein, d'où par exemple cet état de transition ici d'une SN2 où le OH- qui va rentrer reste quand même relativement éloigné. Cette liaison de carbone-oxygène ici est très distante, en tout cas bien plus longue que la carbone-iode, et donc globalement on est loin du produit final. Ces early transition states, on les retrouve dans pas mal de réactions très exothermiques, notamment l'addition d'un radical sur une double liaison. C'est exactement la même chose. Votre radical, l'état de transition de l'addition d'un radical sur une double liaison, le radical est encore très très éloigné de la double liaison. Votre liaison carbone-carbone, par exemple, est très très loin des 1,54 angstrom, est beaucoup plus, la valeur est bien plus grande. Et puis il y a le cas donc en ergonique où c'est l'inverse. On va passer donc par un intermédiaire ici où il va falloir apporter pas mal d'énergie, et une fois que cet intermédiaire est fermé, il va réagir de façon très rapide pour vous donner il va vous libérer l'intermédiaire ici, donc sa formation de ce carbocation, donc qui lui est un intermédiaire, et donc globalement ici c'est l'inverse, donc votre carbocation et votre état de transition ici sont relativement proches. Donc ça paraît très simple et tout, mais c'est là aussi intéressant de garder ça en mémoire. Sur ces stabilités d'intermédiaires relatives et qui peuvent elles-mêmes guider en fait par certains côtés la cinétique de la réaction. Alors, comment s'alléger du poids de l'énergie d'activation? Évidemment, utiliser un catalyseur, Donc on va baisser l'énergie d'activation, on va rendre des réactions qui étaient peut-être marchées qu'à 300 degrés, on va peut-être pouvoir les faire à température ambiante, mais souvent ça implique un nouveau chemin réactionnel avec peut-être des intermédiaires, et donc ça nécessite aussi de comprendre le mécanisme. Donc c'est pas qu'une simple baisse de l'énergie d'activation, c'est souvent un nouveau mécanisme qui est en jeu. Alors, la catalyse, évidemment, réduit cette énergie d'activation, et donc la catalyse, c'est un pilier de la chimie verte. Hein, donc voici les 12 principes par Paul Anastas et Jim Varner de l'EPA, Environment Protection Agency aux États-Unis, donc qui est d'ailleurs assez mise à mal en ce moment par le gouvernement en place aux États-Unis. Et pourtant, quand on regarde bien tous ces mots d'ordre de la chimie verte, on se rend compte à quel point ils trouvent encore écho aujourd'hui. Donc évidemment, la catalyse, suivre les réactions en temps réel pour prévenir la pollution, conception de produits en vue de leur dégradation, pas mal de produits, malheureusement, on n'a pas bien conçu leur dégradation, clairement. Conception, donc les problèmes de sécurité, aller sur des produits du moins polluants, utilisation de ressources renouvelables, on le voit bien, le biosourcé est en train quand même vraiment de rentrer dans la conscience du manufacturing, économie d'atomes, prévention des déchets, ça c'est un point extrêmement important pour la fabrication de toute molécule, parce que fabriquer une molécule mais qui vous donne une montagne de déchets, c'est un vrai problème environnemental, mais aussi de coût, et ainsi de suite. Alors, il y a un complexe assez récent qui est relativement intéressant à voir s'il va vraiment conduire à des, on va dire, à des découvertes importantes, mais il permet peut-être, et c'est peut-être plus pédagogique forcément que réellement fonctionnel, c'est le concept de half-reaction d'André Yudin, qui dit que on devrait analyser une réaction globale en, par exemple, en semi-réaction, comme on le fait, par exemple, les demi-réactions de l'électrochimie. Pourquoi pas envisager une réaction de chimie organique selon le même principe. Alors, l'exemple typique, c'est cette substitution électrophile aromatique, cette bromation du benzène, où globalement, on a une étape endergonique, formation de cet intermédiaire de Hallmann, et puis ensuite élimination du proton qui, elle, est globalement l'étape hexergonique. Et donc, son idée, c'est qu'on peut coupler une étape très exigeante au niveau énergétique, mais s'il y a une étape compensatrice après, ça peut marcher, ce qui est la vérité. Mais c'est surtout que lui, il se dit, pourquoi pas, on connaît ces étapes-là, on sait ce qui coûte en énergie, la fabrication de cet intermédiaire, on les connaît, et on sait aussi ce qui libère de l'énergie. Donc pourquoi pas faire des nouvelles combinaisons entre les deux. Alors, par exemple, qu'est-ce qui est uphill process, donc qu'est-ce qui est endergonique? Une isomérisation EZ. Ça, c'est a priori, c'est pas favorable énergétiquement. Déconjuguer une double liaison, déshydrogéné, puisqu'on crée une liaison pi, on a une liaison sigma, on crée une liaison pi, donc c'est pas favorable. Créer la tension cyclique, donc Bayer strain. Plier un aromatique, passer d'un méthyle en équatorial en axial, tout ça, bon voilà, c'est un côté énergétique. Mais si derrière on libère de l'énergie par exemple créer une liaison carbone-carbone, mais encore mieux, une SIF, une des liaisons covalentes les plus stables qui soient, une PO, pensez au nombre de réactions où vous générez un oxyde de phosphine comme driving force, c'est énorme. Précipitation du HGCl, pareil, ça c'est utilisé quand même très très fréquemment. On peut aussi penser à libérer des gaz. On verra la semaine prochaine avec par exemple l'exposé de Clément Chauvier. Donc on libère du N2, du CO2, du dioxyde de soufre. On va pouvoir passer d'un carbocation primaire à tertiaire. On va pouvoir enlever une contrainte halidique. Tout ça, c'est quelques kilocales bienvenues qui vont aider une réaction. Et on peut ouvrir un cycle, bon, ainsi de suite. Donc voilà, donc ça, c'est ça l'idée. Alors, j'ai quand même... Alors oui, je voudrais juste dire aussi que ça a eu un certain écho, cette façon de penser. Ce qu'il en dit lui-même, l'auteur, c'est que, bon, c'est dans ce paragraphe, c'est que on a pedagogical level, donc ça, c'est une façon d'encourager de nouvelles idées et probablement pour les étudiants d'étendre leur horizon pour trouver des nouvelles combinaisons et éventuellement aussi proposer d'autres réactions. J'avoue que je l'ai contacté ce week-end parce que je lui ai dit, mais est-ce que tu pourrais me donner un exemple finalement un petit peu plus qu'on pourrait essayer dans ce genre d'idée. Et donc, il m'a donné cet exemple. Voilà, on est intéressé par faire cette amide, imaginons, et on peut envisager comme atteindre ce nitrilium, là, cet intermédiaire, par simple hydrolyse, on devrait arriver à l'amide, et donc ça, c'est notre étape downhill, pas de problème. Maintenant, donc, la question est de savoir comment arriver à cet intermédiaire. Et donc, on peut combiner avec ça, évidemment, cette étape. Ça, c'est Shiba qui a publié cette chimie, elle est connue. Mais on peut aussi imaginer ouvrir une aziridine avec un isonitrile, ainsi de suite. Donc voilà, et l'idée de cette chose, c'est de penser à l'intermédiaire, le faire évoluer favorablement, et penser à des nouveaux chemins pour le créer. Et donc là, il vient de sortir cet article aussi, qui est assez intéressant, c'est le lenthalpic coupling, qui reprend ça d'une façon générale, mais qui permet quand même Je pense qu'effectivement, pour les étudiants, c'est assez intéressant de comprendre pourquoi certaines réactions vont très très bien marcher. Alors, donc au niveau des intermédiaires, parce que là, on va aller un petit peu plus vers notre job, on va dire, au niveau du carbone, l'idée, ça va être de le faire sortir de sa zone de confort pour qu'il soit réactif. Alors, ça veut dire souvent pas suivre l'octet, donc pour le carbène, 6 électrons, carbocation, donc carbène divalent 6 électrons, carbocation trivalent 6 électrons. Le radical reste déficient en électrons, l'eau ici va être fortement réactif, mais un carbanion, lui, suit l'octet, mais le problème, c'est qu'on a cette charge qui, elle, du coup, est très réactive, elle va vouloir disparaître. Et donc, globalement, on a toutes ces entités ici qu'on va pouvoir engendrer et faire réagir. Et donc, le cas archétype, c'est quand on parlait de gradient de charge tout à l'heure, c'est de faire réagir un carbanion qu'on va appeler nucléophile, c'est-à-dire qu'il y a une doublée disponée sur un carbocation, sur un électrophile. Bon, c'est une réaction qu'on va rarement faire parce que généralement avoir les deux et puis c'est pas forcément super propre. Donc on va plutôt utiliser des précurseurs polarisés hein, avec là aussi donc ces densités de charge. Mais ce qui est important, c'est qu'on crée cette liaison carbone, donc ça c'est favorable. On a des sous-produits et là on revient toujours au problème aussi des sous-produits hein, dont j'ai parlé au niveau environnement, leur poids, typiquement un couplage organométallique qui vous engendre même l'addition d'un grignard sur un carbonyle, vous avez quand même tous les sels de magnésium à la fin à traiter, et typiquement c'est le genre de choses auxquelles il faut penser. Alors, donc ça c'est une vision, donc la synthèse. Il y a une autre qui est complètement différente, mais où les choses parfois sont un peu mixées. C'est la notion de synthon. Alors, j'ai un certain âge, et comme beaucoup de gens de mon âge, on a été, j'ai envie de dire, presque biberonné par ce livre, Organic Synthesis Disconnection Approach, de Stuart Warren, qui a été vraiment un best-seller, hein, bon, qui se retrouve et tout. Donc vous voyez le commentaire très enthousiaste de Jiping Zhu, de l'EPFL, hein, qui dit que s'il est venu à la synthèse totale, bah, c'est parce qu'il a lu ce livre et que l'approche, l'analyse rétro-synthétique lui a plu totalement. Et c'est vrai que c'est bien écrit. Alors je ne sais pas si c'est vraiment écrit dans une beautiful way, mais en tout cas, c'est extrêmement enrichissant. Et c'est le genre de livre qui vous transforme, c'est-à-dire qu'après, quand vous regardez une molécule, vous n'avez qu'une envie, c'est de voir comment je pourrais la faire. Parce qu'en fait, ça vous présente plein de molécules et on vous dit, j'ai coupé cette liaison-là ou pas, et ainsi de suite. Et surtout, ça vous présente cette notion de synthon, qui sont des fragments idéalisés. Et alors, ce n'est pas a priori des intermédiaires, parce que là, c'est une molécule qui est idéale, mais dans certains cas, ça peut être un intermédiaire. Donc, par exemple, si vous voulez faire cet acétophénone en 4-méthoxy, il y a deux voies. Si on s'intéresse à la rupture de cette liaison carbone-carbone, vous pouvez imaginer quelque chose qui est relativement, on va dire, plausible, former cet anion arylique. Bon, ça se fait, hein, il y a 50 000 façons de le faire. Vous faites le grignard, le lithium et puis probablement d'autres. Et vous le faites réagir sur cet acylium. Alors cet acylium, vous n'allez pas en avoir un flacon dans le labo, mais par contre, la polarité est bonne, puisque c'est un carbocation qui est très stable, par résonance, il est stabilisé. Donc ça, c'est un synthon qui est tout à fait réaliste. Et puis vous avez l'autre approche, où on va partir du principe qu'on fait plutôt le cation ici, qui va réagir avec, on va dire, ce synthon ici, mais qui lui n'est pas du tout, enfin qui est moins réaliste. Il faut faire une petite diversion pour pouvoir créer un carbanion comme ça au pied d'un carbonyle, donc c'est en deux étapes, et donc ça va être ce qu'on appelle un intermédiaire d'Umpolo. Donc cette approche par rétrosynthèse reste malgré tout intéressante parce que elle nous amène quand même à réfléchir sur des intermédiaires plausibles ou pas. Et puis quelque chose qui est utile et qu'il faut avoir en mémoire, c'est les échelles, parce que j'en ai déjà un petit peu parlé, donc du terme de néclophilie, électrophilie. Et donc, Andreas Mayer à Munich, Herbert Mayer, pardon, a compilé pendant toute sa vie un certain nombre de cinétiques, de réactions de divers nucléophiles sur des électrophiles, donc des additions, et a déduit, a fait ça par des analogies de famille. On a déduit cette équation globale, on peut déduire, vous avez par exemple, vous voulez faire réagir un malonate sur un carbocation benzylique, bah là typiquement ça va être vraiment là qu'il faut regarder parce que vous avez tous les renseignements, c'est-à-dire que globalement vous allez avoir un paramètre de nucléophilie qui est intrinsèque au nucléophile, vous avez un paramètre d'électrophilie, donc propre à l'électrophile, et puis vous avez ce facteur SN qui va être le slow specific nucléophile paramètre, donc en fait qui est analysé en faisant réagir un nucléophile avec divers électrophiles et on compare les constantes parce qu'en fait le paramètre intrinsèque de nucléophilie ne vous dit pas quelle est la sensibilité de la réaction de ce nucléophile vis-à-vis de certains électrophiles. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des paramètres de nucléophilie N relativement semblables, mais des SN, eux, très, très variés. Donc, par contre, là où il y a des limitations, c'est que les effets stériques sont mal pris en charge. Et une limitation aussi, c'est que globalement, il vous faut au moins une, voire deux des partenaires qui soient des espèces carbonées. Alors, si vous voulez avoir plus de détails là-dessus, j'en ai rediscuté avec lui aussi ce week-end. Sami Lakhdar est le spécialiste de ça. Il est intarissable sur le sujet parce qu'il a participé lui-même à l'établissement de ces tables. Et puis, il vous donnera tous les renseignements importants pour l'utiliser proprement. Là aussi, il y a une revue qui est très intéressante. Vous pouvez aller sur ce site-là. Et si vous allez sur ce site-là, vous allez télécharger ça. Voilà. Donc, juste pour dire qu'évidemment, on ne voit rien. Mais c'est fait exprès ou pas. C'est que globalement, vous avez... donc ça, comme je dis, je l'ai téléchargé ici. Vous pouvez, donc, il y a un QR code et tout. Mais vous avez quand même globalement un nombre de données hyper importantes. Et c'est quand même rare de ne pas trouver son bonheur. Par exemple, même les Nashe-Borane sont ici. Tout ça, c'est des travaux que Herbert Mayer a fait avec différents, au travers de différentes collaborations. Et a établi petit à petit. Et donc, si c'est quelqu'un que vous avez la possibilité de rencontrer, il est vraiment extraordinaire. Donc, moi, je lui ai fait dédicacer cette table. Voilà. Donc, il est retraité maintenant, mais là aussi, toujours, malgré tout, très, très actif. Alors, pourquoi c'est important de connaître les intermédiaires ? Ben, tout simplement parce que, prenons le cas d'école le plus simple, hein, selon l'intermédiaire, vous allez avoir, par exemple, deux produits différents. Donc, par exemple, faire réagir le propène avec HBR en conditions, on va dire, classiques Markovnikov ou avec un petit peu de peroxyde, ce peroxyde d'ailleurs pouvant être délibérément ajouté ou pas, parce que la réaction sous oxygène, par exemple, peut conduire à la formation de peroxyde intermédiaire, mais ça va complètement vous divertir la réaction, et dans un cas, vous allez obtenir le produit dit de Markovnikov, où on transite par un carbocation secondaire, ou le produit dit de Karasch, où globalement on va avoir formation du radical secondaire, mais ici c'est le BR point qui s'est additionné sur la double liaison. C'est une littérature que moi j'avais commencé à regarder, elle est quand même relativement complexe, elle est d'autant plus complexe qu'en fait la connaissance on va dire, du mécanisme de la réaction de Markovnikov n'était pas vraiment connu à l'époque. Donc, ce qui est très clair, c'est que les gens, Karasch a bien vu qu'ils n'obtenaient pas les mêmes produits, que d'un labo à l'autre, ils n'avaient jamais les mêmes mélanges, et tout simplement parce que le contenu en peroxyde n'est pas toujours le même d'un labo à l'autre. Donc, si vous voulez faire du Markovnikov, bah, distillez bien tous vos réactifs et les utilisez tout de suite. Si vous voulez faire du Karasch, vous les distillez au mois de juin, puis vous faites la manip quand vous rentrez au mois d'octobre, par exemple. Voilà. Donc là, ça, vous allez faire du Karasch. Et puis, comment avoir une réaction où on part du même genre de produit de départ et obtenir des produits, on va dire, très semblables. Donc là, on obtient deux régiosomères, mais là, c'est plutôt l'inverse. On va obtenir des produits très semblables, mais par des mécanismes à la fois assez proche, mais qui n'implique pas le même intermédiaire. Donc, si on fait une base ici, on va déprotoner cet alcool, on va avoir un rangement de Bruch, 1,2, avec donc ce silicium qui va venir ici, et on forme ce carbanion qui est piégé par un électrophile. Mais on peut aussi engendrer un radical alkoxy qui a la même affinité pour le silicium. On est typiquement dans le truc de Yudin, hein, la formation d'une liaison oxygène-silicium, c'est très favorable. Et on a ce rangement Bruch 1,2 où on forme un radical nucléophile qui lui va pouvoir s'additionner par exemple sur une addition conjuguée avec une olefine insaturée. Donc voilà. Alors, je pense qu'on va avoir beaucoup de choses là-dessus, mais comment on en est venu à l'idée d'intermédiaire et justement de faire sortir le carbone de sa zone de confort et ainsi de suite. Il se trouve qu'il y a un motif qui a été très très important dans toute l'histoire de ces intermédiaires. Donc c'est ce motif triphénylméthyle ou trityl, puisque globalement 1900, premier radical par Gomberg, le premier carbocation par Norris et Kerman. Pour avoir regardé les articles, c'est quand même pas simple, hein, c'est pas écrit comme ça en tout cas, clairement. Vous allez voir pourquoi. Et le premier carbanion par Schlenk. Donc vous voyez, on a la famille complète, bah, évidemment, on profite à fond de la mésomérie apportée par le phényl, et donc ça a été une source d'exploration énorme. Donc l'article impressionnant que moi j'adore toujours présenter, c'est celui-là. C'est le premier radical, Gomberg, 1900, facile à retenir au niveau de la date. On prend du chlore de trityl, de l'argent, on a le HGCl qui précipite, donc une des forces de motrice de Yudin, et on forme cette entité radicalaire très stable. Alors qui dimérise, mais d'ailleurs son dimère n'est pas la formation de carbone ici, ça a mis beaucoup de temps avant de comprendre ce qui se passait. Mais ce qui est fabuleux, c'est le titre de Gomberg qui a compris ce qui passait. Lui, il a dit « je forme un carbone trivalent okay ». Comme il a compris et qu'il est particulièrement peut-être ambitieux ou pas, il dit « je vais continuer ce travail et je me le réserve ». Bon, voilà, 1900. Manque de peau. Arrive tout de suite après Norris. Donc 1901, donc il n'a pas mis beaucoup de temps à avoir le travail réservé pour lui-même. Hein, donc on voit toujours ces luttes scientifiques comme des trucs hyper récents, mais non, ça, je veux dire, ça castagnait aussi avant. Et lui, il dit tout de suite, non, il n'y a pas de carbone trivalent. Donc il a refait toutes les manips, voilà, il n'arrive pas du tout à la même conclusion. Et réponse de Gomberg tout de suite après. Et donc, je pense que le papier par Norris et Sanders. En plus, il a toujours ses précédences. Mon papier a été présenté à la Columbus Meeting, mais c'était dans un proceeding, donc peut-être qu'il ne l'a pas vu. Bon, enfin bref, il y a eu des réponses comme ça sur pas mal de choses. Et ce qui est très clair, c'est que. Si vous voulez une analyse de cette histoire, cette revue là dans Tetrahedron est vraiment intéressante. Les deux articles d'ailleurs ont été publiés dans un journal qui était parallèle au JAX, qui a fusionné après avec le JAX. Et d'ailleurs, petite quand même parenthèse importante, toutes ces choses-là, on arrive à les trouver en ligne. On arrive à trouver tous les articles allemands de l'époque. Tous les articles anglais de l'époque, mais je n'ai pas trouvé comment trouver les articles français de l'époque. Et c'est bien dommage, parce que Dieu sait s'il y a de la richesse là. Et ça, c'est un vrai souci. Hein. Je vois qu'il y a des gens de la SFC ici, mais c'est SCF, pardon, mais c'est un vrai problème, parce qu'on a perdu énormément de choses. Hein. Ou à moins qu'il y ait un accès particulier, mais je répète, américain, anglais. Pas de problème. Bon, russe, je ne sais pas, mais ça, c'est un autre souci. Mais bref. Donc, ce qu'ont fait Norris et Wenzel, ben, en fait, c'est qu'ils ont. Ils prenaient le chlore de trityl aussi, ils mettaient soit de l'acide ou à AlCl3 et NaCl2, donc ça ressemble fortement à des conditions de Friedel-Crafts, et ils observent une espèce colorée. Et puis, a priori, ils isolent quand même aussi cet alcool. Pas trop d'explications, ils ne comprennent pas vraiment ce qu'ils ont fait. Et c'est Bayer et Williger dans ce Kember 1902 Alors là, ce n'est pas pour l'oxydation. Hein, c'est Villiger était l'étudiant de Bayer, étudiant suisse d'ailleurs, donc avait clairement fait beaucoup de choses, qui ont, eux, ont une meilleure vision de ce qui s'est passé. Alors, et qui disent que bah, globalement, on doit probablement avoir un cation ici, triphényl-méthyle, et c'est ça l'explication de la couleur. Alors, je pense qu'effectivement, Jérôme en parlera abondamment, mais ces composés-là, selon l'habillage de l'aromatique, on peut avoir des couleurs magnifiques. Donc le cristal violet, par exemple, et ce trisamino-cation. Difficile de ne pas parler de Bayer non plus, d'ailleurs qui est maintenant dans la postérité. Ah ben, c'est pas bon, excusez-moi, une faute de frappe, mais c'est Von Meyer, parce qu'il a été anobli pour tout ce qu'il a apporté à la chimie de l'époque. C'est l'inventeur, donc prix Nobel 1881, c'est l'inventeur de l'indigo, donc notre gin, hein, des barbituriques, de la synthèse de l'indole, donc une contribution d'une richesse énorme. Et donc là aussi, vous pouvez retrouver pas mal de ces informations dans cette revue récente de l'ESIS. L'ESIS fait ça, fait des petits documents qui reprennent l'histoire de certaines découvertes et qui sont vraiment super. Il y en a un sur Pasteur qui est admirable, enfin, ainsi de suite. Voilà, donc les cations, les réactifs trityles, bah, ils sont intéressants pour la réactivité à divers égards. Il y en a plein qui sont commerciaux, hein, on peut les acheter, pas trop cher. Leurs utilisations synthèse organique dans l'Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, bah, il y a eu Jung, Lagout et Ulrichian qui ont publié dessus. J'ai mis quelques utilisations, mais on peut en imaginer d'autres. C'est les arracheurs d'hydrure, donc par exemple super pour faire arracher un hydrure sur quelque chose qui va donner un carbocation aromatique, hein, c'est pour faire le tropylium ou le cyclopropénium. Bah, c'est vraiment un très bon réactif. On peut l'utiliser pour oxyder cet éther d'énol silylé et former la cyclohexénone correspondante. Et puis nous, on l'a utilisé dans le contexte de la chimie radicalaire, parce que c'est aussi quelque chose qui peut accepter un radical, et s'il accepte un radical, enfin un électron, pardon, et s'il accepte un électron, ben, on forme le radical correspondant, qui est le radical de Gomberg, dont tu sais que là, il est très stable. Donc là, la force motrice, elle est là. Hein, l'étape downhill. Donc ici, on prend des trifluoroborates, on oxyde, on forme ce radical, et puis on le piège avec du tempo, et on forme ce type de produit. Et le fait qu'on obtienne ce produit rarangé est une bonne preuve qu'on transite par un radical. Très récemment, donc Riedel à Berlin, lui, a développé des trityl-cations super électrophiles. Alors, donc on synthétise cette molécule. J'avoue que je n'ai pas trop regardé comment on l'a fait, celle-là, mais je pense que ça doit être un petit peu costaud. Mais vous regarderez aussi la façon dont on l'utilise, hein, moins 80 degrés, dans un solvant pas forcément le plus sympathique, donc fluorure de chlorosulfonyl. Tout ça avec un petit peu de gallium. Bon, donc on va obtenir ce carbocation avec cette espèce anionique du gallium. Et là-dessus, si on met du TMSCL ou du TMSBR, on va pouvoir faire une substitution nucléophile aromatique. Donc on va substituer un des fluorures par le X, donc ici, chlorure ou bromure. Alors quel est l'intérêt de faire ça? C'est qu'on a toujours des carbocations très électrophiles, mais qui sont globalement plus stables par rapport à celui-là qui est vraiment visiblement très touchy. Et une fois qu'on a ça, on peut prendre un alcane et arracher un hydrure de l'alcane. Donc il a fait ça avec le butane, pentane, et globalement il obtient des espèces chlorées, plus ou moins avec rarrangement, et assez l'article n'est pas franchement détaillé sur les espèces chlorées qu'il obtient, mais c'est des réactifs qui sont bien donc, pour faire de l'arrachement d'hydrure. Alors parler de carbocation sans parler de Ola, c'est pas possible, hein. C'est vraiment celui qui a fait avancer le champ de façon remarquable dans toutes les années 70, 80, 90. Prix Nobel en 1994. Donc, My Search for Carbocation and the Role in Chemistry. Donc, vous voyez, quelqu'un qui a mis au point des modes opératoires extraordinaires, qui ont été utilisés même pour faire des médicaments, Navelbine, ainsi de suite. Je ne vais pas rentrer dans ça. peut-être l'année prochaine, mais vous pouvez avoir pas mal d'informations sur tout ce qu'a la contribution dollar. C'est très intéressant. Et une contribution aussi très utile, c'est parfois la confusion entre carbénium et carbonium, qu'on a beaucoup trouvé dans la littérature et qu'a priori on trouve de moins en moins. Donc carbénium sera vraiment le carbocation trivalent, on va dire, tel qu'on l'entend, tel qu'on le voit. Le carbonium est cette fameuse espèce du carbone à cinq pattes qu'on trouve parfois sur les copies, mais aussi dans certaines conditions, dans spectro et ainsi de suite. Donc parlons un petit peu des carboniums. L'histoire est confuse, mais c'est vrai qu'on le voit potentiellement en spectrométrie de masse, le C5H+. Donc dans cet article russe de l'époque, son infrarouge a été déduit dans ce Science de 1999. Là, ils engendrent le C5H+ par un plasma, ils mettent du méthane et du H2, et ils obtiennent quand même un certain nombre d'espèces, dont a priori ce C5H+, et ils font l'infrarouge de cette espèce, qui a été modélisé. Pas de géométrie, les géométries potentielles sont... Enfin, il y a un continuum assez large de géométrie possible. Celui qui a beaucoup apporté au niveau théorique sur ces carboniums, en fait, c'est von Ragge-Schleyer, en montrant que là, on avait plutôt a priori une structure TBP, trigonale bipyramide. Travail donc vraiment très important de Ola, un titre long, mais qui montre que, par exemple, si vous prenez cet alcane, et là aussi vous utilisez des réactifs par cet acide fluorosulfonique en présence d'antimoine pentafluorure, et en fait vous allez protoner votre alcane, donc a priori passer par cet intermédiaire carbonium qui lui va fragmenter et va vous donner, va évoluer vers différentes espèces. Donc l'idée c'est super acide arrivable, donc protoner un alcane. Donc là, la littérature de Ola sur ce genre de transformation est particulièrement abondante. Alors, pourquoi les carbocations sont des intermédiaires importants? Donc, je vous ai dit, c'est souvent les premiers qu'on voit dans notre apprentissage de la chimie organique. Donc, ça, c'est tiré de la revue de Klump, qui est vraiment, comme je disais, qui est intéressante, qui vaut le coup d'être regardée. Là, c'est à la fois les avancées mécanistiques et les réactions de synthétique. Et vous voyez que, il y en a quand même là, beaucoup qu'on connaît. Donc, j'en ai parlé de la Friedel-Crafts 1877. Nazarov, Ritter, la réaction de Ritter, quand même, où on fait réagir un carbocation avec un nitrile. Relativement utilisé. L'histoire, on en a déjà un petit peu parlé. Ce qui est intéressant, c'est le mécanisme de la SN1. Vous voyez, ça a mis quand même du temps, 1928, donc Ingold, donc celui de Kahn, Ingold, Prelog. L'allonium, 1937. Vous voyez, donc il y a eu tous ces développements, mais le mécanisme sont toujours arrivés, généralement, quand même beaucoup plus tard par rapport aux découvertes réactionnelles. Donc les Markovnikov rules, ça c'est l'observation empirique 1870, l'explication a mis beaucoup plus de temps à venir. Voilà, donc maintenant, si vous voulez former un carbocation cet après-midi au laboratoire, comment vous allez faire? Vous pouvez faire une solvolyse, prendre un dérivé halogéné et puis vous le chauffez dans un alcool, et puis a priori terbutanol, un truc comme ça, puis vous allez avoir votre carbocation, et puis il peut se passer beaucoup d'autres choses. Vous pouvez protoner un alcool selon les conditions, vous pouvez protoner un alcène, vous pouvez également arracher un hydrure, ça on vient de le voir, donc vous prenez quelque chose qui va être arraché en hydrure, donc soit par protonation, parce que dans ce cas-là, si vous protonez, vous pouvez faire partir un hydrure et ça, il y a du H2 qui se dégage. Ça, il l'a observé dans ses articles-là, Ola. Hein. Et vous pouvez également arracher un halogénure en utilisant l'acide de Lewis, par exemple. C'est vraiment la Friedel-Crafts, hein, AlCl3, c'est le truc le plus classique. Et puis, vous pouvez aussi avoir des rangements de carbocations, migration d'hydrure, migration d'alchyle, d'alkyle ou d'aryl. Et puis aussi, bah, avoir un radical et l'oxyder. Hein. Le redox peut être utile pour transiter entre les intermédiaires. Alors pourquoi les carbocations ils sont importants dans l'industrie, hein, ils donnent naissance à pas mal de dérivés très utiles. Bon, déjà, ce qui est important, c'est le catalytic cracking, hein, industriel, c'est d'avoir ces mélanges de produits à longue chaîne carbonée et qu'on va traiter en milieu acide avec des zéolithes à 500 degrés, et donc on va avoir des protonations de ces chaînes, et puis ça va craquer, et ainsi de suite. Et on peut arriver aussi à des produits beaucoup plus finis dans le même genre de conditions, par exemple le fameux isooctane, hein, qui fait en sorte que nos moteurs marchent bien. Hein, quand vous voyez le E95, c'est le taux d'isooctane, parce que l'octane peut être un carburant, mais l'isooctane est un meilleur carburant, parce qu'il y a moins de détonations, ainsi de suite, donc... et lui, il résiste tout simplement, bah, en milieu acide, vous prenez l'isobutane et vous obtenez l'isooctane par addition de cet alcène sur le carbocation que vous avez engendré. Et ainsi de suite, vous engendrez un carbocation, donc c'est comme ça que ça se fait. Bon, c'est très très simple, hein, parce que c'est de la catalyse hétérogène, donc c'est, évidemment, c'est un petit peu plus compliqué. Et puis quelque chose qui est finalement une très belle réaction pour introduire les intermédiaires, parce qu'il y en a un que je n'ai pas écrit, mais c'est... la synthèse du phénol et de l'acétone, ben vous prenez le cumène, donc issu de la pétrochimie, vous mettez du dioxygène, vous allez arracher en fait l'hydrogène ici, donc vous formez un beau radical bien stabilisé qui est oxygéné. En milieu acide, vous avez ce rangement de HOC et qui vous conduit à ce carbocation puis qui s'hydrate et vous formez donc ces deux dérivés. Et je crois que c'est encore des procédés industriels qui tournent, hein, en tout cas on a besoin des deux produits. Voilà, et donc une approche intéressante pour faire des carbocations, c'est celle qu'a développée Ushida, qui était à l'université de Kyoto, qui est décédé finalement relativement récemment et aussi finalement relativement jeune. Hein. Et Yoshida a été un des précurseurs de la chimie en flux, de la miniaturisation des réactions, de beaucoup de choses. Et aussi cette idée assez géniale de, on va dire, utiliser la chimie des carbocations pour la rendre beaucoup plus pratique et donc faire un cation pool, donc engendrer un carbocation, comme vous le feriez avec un carbanion, parce qu'on sait engendrer un carbanion globalement et le stocker et l'utiliser. Hein. Bon, voilà, vous prenez, et puis même, vous avez beaucoup de carbanions, par exemple, qui sont commerciaux, qui sont dans les frigos. Les carbocations, il y en a beaucoup moins, parce qu'ils sont beaucoup plus réactifs, et c'est difficile de les engendrer sans nucléophile. Donc là, l'idée, c'est vous utilisez l'électrochimie. Vous allez globalement oxyder un dérivé ici avec une liaison CY qui va pouvoir fragmenter facilement. Et soit vous passez tout de suite une fragmentation, enfin une coupure mésolithique là, pour obtenir votre carbocation et ce radical, ou vous fragmentez ici et vous oxydez le radical en carbocation. Et donc l'idée, c'est ce qui est intéressant, c'est vous allez pouvoir engendrer par oxydation un carbocation, mais par exemple le faire réagir avec un réactif qui, s'il avait été en mélange avec le carbocation, aurait été oxydé aussi, donc dont le pouvoir d'oxydation est plus bas que celui du précurseur, parce qu'en fait il a des chambres électrochimiques qui permettent de contingenter cette espèce carbocationique. Donc cette revue là est très intéressante. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut engendrer 0,05 molaire cet iminium, par exemple, après oxydation de cette pyrolidine. Donc, c'est des divided cell, l'appareil. On est à courant constant, donc c'est une oxydation anodique évidemment. Et ensuite, bah, ça, on peut le faire réagir avec l'alicylane et on va obtenir ce produit d'aliation. Et ça marche bien parce que, par contre, si vous aviez mis l'alicylane dès le départ, il y aurait une compétition parce qu'au niveau des potentiels, vous voyez, vous êtes voisins. Pareil ici, on peut faire un bel exemple de glycosylation où on va prendre un thioglycoside comme accepteur. On va l'oxyder pour faire cet oxonium ici qui va pouvoir être stocké et on le fait réagir maintenant avec un nouveau thioglycoside pour obtenir donc ce disaccharide ici avec une stéréosélectivité on va dire classique, hein, rien d'exceptionnel à ça. On peut même pousser cette méthode. Alors là, on n'est plus vraiment dans le cation pool, mais dans le iodonium pool, parce que d'un côté, on va pouvoir avoir un dérivé iodé et un dérivé aromatique, et l'oxyder, et former ces iodoniums ici, sur lesquels on peut faire une métathèse d'anion. Et donc, c'est une façon assez intéressante d'engendrer des iodoniums dissymétriques. Voilà, donc classique carbocation, j'ai juste en parlé un petit peu, mais je pense que je ne vais pas avoir le temps de parler des applications synthétiques, donc, mais c'est pas grave, on va faire une pause. Alors, ce carbocation non classique, on va aussi en entendre beaucoup parler avec la dernière conférence d'Ilan Marek, hein, donc au mois de mai, puisqu'il va nous parler de ses travaux, donc je pense que je mettrai aussi en introduction un certain nombre de transformations là-dessus. Mais l'idée, c'est que contrairement aux cations classiques qui sont trivalents et planaires, les carbocations non classiques sont généralement sont des carbocations qui sont délocalisées sur trois carbones avec une possibilité de stabilisation par deux électrons supplémentaires. Et donc, à un moment où, si vous comptez le nombre de liaisons que vous pouvez faire à partir du carbone, d'un carbocation non classique, vous pouvez arriver à 5 liaisons. Donc, on revient un peu sur l'idée de carbonium ici. Donc, je m'explique. Je pense que ce schéma est finalement plus clair que celui-là. Si vous prenez ce bromure de norbornyl, vous pouvez arracher le brome ici avec du AlBr3, vous formez un carbocation et vous arrivez à cette forme ici où globalement votre carbocation il peut être à un moment ici, 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 selon que vous délocalisez votre doublé. Et si vous comptez, par exemple, ici, les voisins sur ce carbone, vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, si vous comptez que c'est une double liaison, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite. Et la prouesse de Funchler-Reagescher et Crossing est d'avoir pu cristalliser ce carbocation non classique du norbornyl à 40 Kelvin, quand même. Hein, donc, voilà, avec qui il a trouvé... trois structures relativement voisines, finement analysées, mais ça reste quand même une prouesse vraiment importante et qui permet, qui a ouvert la voie à pas mal de développements synthétiques dont je parlerai au prochain cours. Oui. Ah ben non, il y a aussi là, j'avais oublié celle-là, mais donc il y a ce carbocation non classique qui s'apprend presque à un carbonium. Il y a eu d'autres familles. Il y a eu le CH5+ de Massamouné ou même le dication là de Hochwin où on part d'un benzène de Dewar, on arrive à faire ces molécules là et puis on se met en milieu hyper acide et on protonne et on arrive à un dication ici cristallisé également alors c'est assez intéressant d'écrire les structures et de voir toutes les deux localisations pour comprendre la structure, c'est pas si simple que ça, on peut y passer pas mal de temps. Mais il y a quand même pas mal de littérature là-dessus. Ce qui est évidemment très important, c'est les contre-ions. J'en parle pas beaucoup, mais ils sont absolument pas nucléophiles, bien sûr. Hein. C'est la clé de tout cet isolement de toutes ces structures. Hein. Là aussi, ça, c'est absolument pas nucléophile. Et donc, vous pouvez sortir ces molécules assez facilement. Et puis, la température, évidemment, est importante. Voilà, et donc ça, j'en parlerai au moins plus tard. Des applications, notamment en catalyse asymétrique et voire même en catalyse, d'une façon générale, des carbocations non classiques. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous remercie de votre attention.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-2-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.